Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à tous à l'écoute de Mélomanie, le magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Comme je l'annonçais lors de notre précédent numéro, la seconde quinzaine du mois de novembre va être particulièrement riche en événements musicaux en tout genre. Ce jeudi, à Saint-Pierre-des-Cuisines, commence la saison des Arts Renaissants avec le concert du pianiste toulousain Adam Laloum associé à la violoniste japonaise Sayaka Shoji. Et ce week-end, au Palais Niel, a lieu la 7e édition du festival Musique au Palais. Nous vous l'avons présenté la semaine dernière. Bien d'autres rendez-vous se préparent et nous allons nous faire un plaisir de vous les présenter en compagnie de celui qui m'assiste fidèlement dans l'animation de cette émission depuis des années. J'ai nommé Serge Chosy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. La seconde partie de ce numéro va être particulièrement dense, comme vous allez pouvoir le constater, puisque les concerts se chevauchent même certains soirs la semaine prochaine. Avant d'en arriver là, nous allons bien sûr revenir dans un premier temps sur l'actualité musicale avec notre traditionnelle rubrique Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Un seul concert au sommaire de ce retour arrière, mais très attendu, celui de l'Orchestre National du Capitole, samedi à la Halle aux Grains, avec un programme Ravel, Rachmaninoff, Richard Strauss, placé sous la direction du chef américano-mexicain Robert Trevino, avec la pianiste Marie-Ange Ngouchi en soliste invitée. Beaucoup de belles œuvres étaient au menu. Est-ce que la manière dont elles ont été jouées et dirigées vous a plu, Serge Chosy?
Ah oui, beaucoup. Nous avions deux retours, en quelque sorte, puisque d'une part l'américain, américano-mexicain, donc Robert Trevino, avait dirigé il y a pratiquement un an, presque jour pour jour, la première symphonie de Mahler dans sa version intégrale avec le fameux Blumine que Mahler a supprimé par la suite. Et il avait beaucoup impressionné. Et là, dans ce programme très varié, hein, il faut dire, hein, Ravel, Rachmaninoff, Richard Strauss, c'est pas très proche, quoi. Même si c'est proche par l'époque.
C'est contemporain.
C'est contemporain, mais des styles musicaux
oui,
très différents. Alors, c'est Ravel qui a ouvert la soirée avec sa Rhapsodie espagnole. Alors, Rhapsodie espagnole, pourquoi? Parce que Ravel a subi l'influence de sa mère, hein.
Basque.
Très basque, évidemment, et qui défend la musique du Pays basque en même temps. Alors, ça a été dirigé avec intensité, un tempo retenu, mais avec des sonorités soyeuses, en particulier dans ce magnifique prélude à la nuit. Hein. Et dans le reste, dans la feria, alors il y a une domination des vents de manière somptueuse, vraiment magnifique. Donc, c'était très très bien. Et puis, nous avons reçu Marie-Ange Ngouchi, qui est déjà venue deux fois à Piano Jacobin, qui avait été révélée à cette époque-là, et elle avait déjà révélé un talent extraordinaire. C'est une pianiste qui a 24 ans. Hein. Elle était venue il y a au moins 4 ans, la première fois à Piano Jacobin, elle avait à peine 20 ans, c'était incroyable. Et elle a joué une pièce très virtuose, mais elle ne s'est pas contentée d'en souligner la virtuosité, elle a fait de la vraie musique. C'est ça qui est magnifique. Et donc il s'agit de la Rhapsodie sur un thème de Paganini. Alors évidemment, deux Rachmaninoff, deux grands compositeurs très virtuoses tous les deux, Paganini pour le violon, Rachmaninoff pour le piano. Alors il s'agit d'une rhapsodie, bon, qui est bien différente de celle de Ravel évidemment, mais plutôt qu'une rhapsodie, on devrait parler d'une série de variations. C'est des variations sur le thème hyper célèbre, hein, du Caprice pour violon seul numéro 24 de Niccolo Paganini. Et là, je dois dire vraiment qu'elle a impressionné cette jeune pianiste par la maîtrise non seulement de ce que à une certaine époque, il y avait une émission sur France Musique qui s'appelait « Le délire des doigts ». Eh bien, elle a ce délire des doigts, mais pas que. Et c'est ça qui est formidable. Alors, il y a un déploiement de nuances, de phrasés, de beaux phrasés, magnifique. Vraiment, elle a impressionné toute la Halle aux Grains, elle a eu un véritable triomphe. L'orchestre, ben évidemment, l'a soutenu avec force, quelquefois peut-être un peu trop de force, puisque par moments, l'orchestre submergeait un peu le piano. Mais la fusion entre les deux a été tout de même permanente et de très belle qualité. Alors, accueil triomphal qui l'a presque obligé à donner un double bis. Deux bis, ce qui est quand même pas très courant, avec comme premier bis, alors une chose totalement
ahurissante. C'est ça qui est surtout pas courant, parce que...
Ah non, ça c'est incroyable. Quand elle a commencé à jouer les premières mesures de la cadence du concerto pour la main gauche de Ravel, elle tenait à revenir à Ravel après la musique de Rachmaninoff, elle l'a dit d'ailleurs, et donc elle a joué toute la fin du concerto pour la main gauche de Ravel, sans orchestre évidemment, et de manière ahurissante. On espère qu'on l'entendra plus tard jouer tout le concerto avec l'orchestre cette fois. C'était absolument magnifique. Et puis, comme le public était toujours aussi déchaîné, elle est revenue pour jouer une pièce un peu mystérieuse que pour ma part j'ai découverte. Une pièce qui s'appelle « Les cloches de Las Palmas » et c'est signé de Camille Saint-Saëns.
Alors, inconnu au bataillon pour moi.
Et oui, c'était pour moi aussi. Et donc, bon, on sait que Camille Saint-Saëns a beaucoup voyagé. Il est allé à Las Palmas et donc
Il en a tiré une composition.
Voilà, exactement. C'était vraiment très intéressant de découvrir de la musique de Saint-Saëns. Ça, c'était la première partie du concert.
Eh bien, on va faire un petit stop sur cette première partie de concert et notamment sur cette performance, on va appeler ça comme ça parce que c'en était une, de Marie-Ange Ngouchi. Nous allons écouter cette excellente jeune pianiste dans une interprétation de la fameuse Rhapsodie sur un thème de Paganini de Serge Rachmaninoff qu'elle joue ici, accompagnée par l'Orchestre National d'Île-de-France. Marie-Ange Ngouchi interprétait la Rhapsodie sur un thème de Paganini de Serge Rachmaninoff accompagné par l'Orchestre National d'Île-de-France. Il y avait donc une troisième œuvre au programme du concert de samedi à la Halle aux Grains et une très grande œuvre, Une vie de héros de Richard Strauss, dans laquelle le compositeur allemand se met en quelque sorte en scène, un peu beaucoup en majesté, Serge Chosy.
Oui, tout à fait. Alors, on peut se poser la question, pour un jeune compositeur de 34 ans, parce qu'il était jeune à l'époque, c'est lui qui le met en scène, carrément.
Le héros, c'est lui.
Sans modestie. Alors, c'est des épisodes de la vie d'un héros, en quelque sorte, que l'on entend, que l'on découvre. Tout démarre avec cette espèce d'introduction par les cordes graves, pour ma part, que je trouve impressionnante. Et là, Robert Trevino a fait ça, a suscité de la part des pupitres de cordes graves une intensité, une force, une incandescence impressionnante. L'héroïsme ne connaît pas de trêve dans cette œuvre, effectivement. Alors les thèmes évoqués jaillissent avec beaucoup de précision et de force sous la direction du chef. Et alors, après les grimaces, la deuxième partie, c'est les adversaires du héros. Alors là, c'était des grimaces données par les bois, avec hautbois, clarinette, flûte, basson, qui sont un peu des caricatures. Et puis enfin arrive l'épisode de la compagne du héros. Et là, dans la compagne du héros, la compagne, eh bien, elle est représentée par le premier violon solo. Super soliste. Et là, nous avons pu découvrir le talent d'une jeune violoniste qui a occupé ce poste pendant la soirée. Elle est issue de Corée, elle s'appelle Jaewon Kim, un nom très courant en Corée évidemment. Et là, elle occupe ce poste quand même stratégique de leader, puisque c'est la dénomination anglo-saxonne d'ailleurs, c'est le leader de l'orchestre, le premier violon solo. Et elle a fait ça avec, d'une part, une virtuosité sans faille. La virtuosité de ce passage est incroyable. L'écriture de Strauss, elle en remontrerait presque à Rachmaninoff. Donc, une musicalité, une richesse du timbre, elle a beaucoup impressionné. Et on pourrait peut-être la revoir dans le pupitre des cordes, puisque je crois savoir qu'elle est plus ou moins candidate. Donc, ça a été une grande découverte. Et d'ailleurs, elle a eu un véritable triomphe lorsque le chef l'a faite lever, évidemment, à la fin du...
Oui, puis apparemment, elle est très appréciée de ses collègues.
Oui, exactement, exactement. Elle a été très applaudie par l'ensemble de l'orchestre. Et puis aussi, alors, il y a un épisode de cette vie de héros qui est impressionnante à plusieurs titres, c'est la bataille. Alors, c'est dans cette bataille, on sait qu'il y a une partie du pupitre des trompettes qui va en coulisses et qui réalise une sorte d'écho avec les cuivres du plateau. Alors le déchaînement était à son comble. Ça a fait vraiment une impression à tout le public incroyable. Donc, grand triomphe de cette exécution, tel que, eh bien, là aussi très inhabituellement, eh bien, l'orchestre a donné un bis sous la direction de Robert Trivino. Alors, et voilà. Et ce bis, oh ben, c'est un bis qu'on n'attendait pas, évidemment. C'est très rare d'avoir des bis d'orchestre, sauf pour les orchestres invités, quelquefois. Et là, l'orchestre a joué une œuvre, alors elle, très célèbre, la danse hongroise numéro 5 de Brahms. Là, le public tapait même dans les mains pendant l'exécution de cette danse hongroise. Ça a été vraiment un concert avec beaucoup de succès.
Un vrai feu d'artifice. Oui. Alors, il faut rappeler que cette vie de héros du très nietzschéen Richard Strauss avait été jouée il y a peu, en décembre 2020, je crois que c'était le 5 décembre précisément, par l'Orchestre National du Capitole à Lohengrin, sous la direction de Cornelius Meister.
Voilà, oui.
C'était sans public, puisque c'était une période de confinement. Et donc, il y avait eu une captation, une diffusion en direct sur les réseaux sociaux et sur YouTube à l'époque. Je vous propose d'en écouter un extrait de cette version de décembre 2020 à la Lohengrin sous la direction de Cornelius Meister. Thank you. Et quand on vous dit que le violon a un rôle essentiel dans cette œuvre, extrait d'une vie de héros de Richard Strauss par l'Orchestre National du Capitole, dirigé ici par Cornelius Meister lors d'un concert enregistré en décembre 2020 à la Halle au Grand, qu'on peut d'ailleurs toujours trouver sur YouTube. Voilà donc pour ce retour sur le concert de l'ensemble symphonique toulousain samedi dernier, fin de la première partie de cette émission, petite virgule musicale, et je vous retrouve dans quelques secondes, toujours avec Serge Chosy. A tout de suite.
Mélomanie, l'agenda.
Et comme je vous l'ai annoncé au début de ce numéro, l'agenda de Mélomanie va être très copieux. Aujourd'hui, nous allons l'ouvrir en changeant complètement d'ambiance avec un événement original, bien qu'il ne s'agisse pas de sa première édition. Il s'agit de Bypass, le forum international de la création musicale qui a lieu à Toulouse, en divers lieux de la Ville Rose, de ce 15 novembre au 1er décembre. Il y a des concerts, mais aussi des ateliers, des masterclass. C'est la 8e édition et elle est sous-titrée Voix d'elle, L-E-2-L-E. ES. Serge, autant le préciser d'emblée, on va y entendre la musique la plus contemporaine qui soit. Petit rappel, dites-nous qui organise cette manifestation et qui en sont les fondateurs et les chevilles ouvrières.
Bien, il y a deux fondateurs, c'est pour cela que ça s'appelle le collectif EOL d'ailleurs. Et ce sont d'une part Bertrand Dubedoux et d'autre part le compositeur Pierre Jodlowski. Donc c'est la 8e édition, comme vous venez de le dire, de ce forum. Donc ça veut s'appeler Forum de la création musicale. Donc voilà exactement quel est le but. Et alors, au cours de cette 8e session, 8e édition, nous entendrons des compositrices, des interprètes, des poétesses, des performeuses, des danseuses, des scénographes, donc des générations de femmes qui continuent en quelque sorte à nourrir le champ artistique de notre époque, les musiques qui se composent aujourd'hui. Et je trouve que c'est une très belle initiative, qu'il faut ne pas se réfugier en permanence sur les musiques du passé. La musique dite classique, eh ben elle continue, les compositeurs continuent à écrire de la musique classique. Voilà, d'aujourd'hui.
C'est voix d'elle, et on pourrait même dire ses créations d'elle, hein, oui, puisqu'il y a des compositrices. Précision, Pierre Jodlowski, c'est un Toulousain, né à Toulouse. Et le collectif EOL est installé en résidence à Audi-Sud, un partenariat de longue date. Voilà. Et Bertrand Dubedoux, alors lui est aussi originaire du Sud-Ouest, je crois qu'il est de Bayonne, on parlait du Pays Basque avec Ravel tout à l'heure. Il est du pays de Ravel, mais il est installé aussi, en tout cas il intervient à Toulouse, à l'université, à la faculté de musicologie. Voilà, donc je crois deux Toulousains de naissance et un d'adoption. Pour ce très intéressant événement qui est Bypass, Jodlowski, il y aura une création.
Oui, il y a un spectacle. Un spectacle, San Clemente, le 15 novembre, et ça se passe au Ring, la scène périphérique du Ring, qui est une salle un peu particulière, une allure de hangar.
Absolument, mais à la fois du théâtre et de la musique dite contemporaine,
exactement,
comme celle du collectif EOL.
Et c'est vraiment ce lieu qui accueille la grande majorité des manifestations de cette 8e édition.
Pierre Jodlowski, c'est pas un hasard si ça s'appelle voix d'elle, parce que la voix est très présente dans son œuvre.
Hein. Absolument.
C'est vraiment un instrument sur lequel il travaille beaucoup, qu'il inspire énormément. Et puis il a une autre particularité, Pierre Jodlowski, c'est qu'il revendique dans ses créations musicales un engagement politique et sociétal. Hein. C'est pas par hasard non plus que je pense qu'il y a un côté évidemment féministe dans la manifestation de cette année. Alors d'autres invités, bien sûr, à ce festival, il y en a beaucoup. Hein.
Ah beaucoup, oui. Mais disons que pour ce qui concerne Pierre Jodlowski, l'œuvre qui est donnée, elle tourne autour, c'est une île, source d'inspiration donc de ce spectacle, et donc avec des silhouettes de musiciennes, des vidéos de danseuses, absentes d'ailleurs, et une mise en scène dans Venise, puis les couloirs et les chambres de l'hôtel San Clemente, et donc d'où le titre de ce spectacle. Ensuite, il y aura vraiment d'autres participants, en particulier le 22 novembre, le Quatuor de saxophone Quasar, donc, qui est de Montréal, du Québec, et qui viendra également sur cette scène du Ring, avec des œuvres nouvelles, de musique instrumentale, électronique, improvisation, théâtre instrumental même, et une nouvelle lutherie. Donc, on entendra des instruments particuliers en même temps.
Ça, c'est également au Ring.
Au Ring, toujours au Ring, oui.
Et puis, alors, il y a un concert à Saint-Pierre-des-Cuisines.
Ah oui, il y a un concert.
Un seul, mais vraiment très important.
Ah oui, tout à fait. Un concert qui s'appelle Opus Contemporain. Et c'est un nouvel ensemble instrumental qui est voué, cet opus contemporain, aux musiques de notre temps, qui se spécialise dans ces musiques actuelles, qui est sous la direction artistique de Jérôme Comte, qui est le clarinettiste solo de l'ensemble intercontemporain, donc qui a vraiment...
Plusieurs musiciens d'ensemble intercontemporain sont représentés dans cette édition.
Voilà. Et le programme de la soirée, c'est autour de l'improvisation sur une partition graphique de Félix Rosen, et puis un large échantillon de la génération des compositrices et compositeurs parmi les plus représentatifs de la richesse de création européenne actuelle. Et nous retrouverons au passage une œuvre de la compositrice qui est un peu la marraine de cette édition et qui est la grecque Georgia Spyropoulos, qui est donc la compositrice tutélaire de ce forum 8e édition.
Beaucoup de compositrices, on l'a dit, mais aussi beaucoup de musiciennes.
Ah oui.
Et notamment, il y aura la Toulousaine d'adoption, elle aussi, Alice Chimansky, qui enseigne la flûte au conservatoire régional de Toulouse. Il y aura la clarinettiste Elsa Santurelli. Beaucoup d'autres, on ne peut pas tous ni toutes les citer.
Ils sont très nombreux. Musiciennes qui jouent aussi bien du classique que du contemporain.
Bien entendu,
évidemment.
Un répertoire très très étendu, toutes celles qu'on vient de citer. Il y aura l'ensemble flashback avec Diego Tosi, qui est, contrairement à ce qu'on entend pour laisser croire, qui est bien français, qui est violoniste à l'ensemble intercontemporain également.
Voilà. Alors, c'est ce qu'on Ce concert-là, le 23 novembre, est un concert avec vidéo et électronique.
Oui, parce que souvent, on est un peu à la croisée de plusieurs disciplines artistiques.
Bien sûr.
C'est vraiment la création contemporaine dans toute sa diversité et dans tous les moyens qu'elle peut offrir aujourd'hui, qui sont évidemment immenses. Petit aperçu de ce que vous pourrez entendre. Je dis bien vraiment petit aperçu parce qu'il y a tellement de choses. Lors de cette édition 2022 de Bypass, avec cet extrait du Quatuor Quasar. Je ne sais pas si on dit Quasar ou Quasar d'ailleurs. Ça s'écrit Quasar. Quatre saxophonistes dans leurs œuvres. Le Quatuor Quasar en action, c'est une des formations au programme de la 8e édition de Bypass, le forum international de la création musicale qui a donc lieu à Toulouse du 15 novembre au 1er décembre, au Ring à Saint-Pierre-des-Cuisines et à la Cinémathèque parce qu'il y a aussi un ciné-concert, Serge Chosy.
Oui, un ciné-concert autour d'un film mythique, film muet évidemment, qui est L'homme à la caméra, un film qui a été tourné et réalisé à Odessa en 1929 par le cinéaste soviétique à l'époque, Dziga Vertov. Et donc, c'est ce film qui sera projeté à la Cinémathèque de Toulouse. Alors, la musique originale de ce film, elle est en fait de Pierre Henry et elle date de 1993. Alors, je suppose que c'est cette musique qu'on entendra, et avec une distribution pour le film extraordinaire pour l'époque. Donc, nous entendrons ça et nous verrons ce ciné-concert. Nous y assisterons donc le 1er décembre à 20h30 à la Cinémathèque de Toulouse.
C'est le dernier jour du festival et exact. Ça, vraiment, je conseille ça ne pas rater et pour le film pour la musique de Pierre Henry. Voilà, donc Bypass du 15 novembre au 1er décembre à Toulouse. L'Orchestre National du Capitole. On y revient puisqu'il est encore en concert cette semaine, jeudi 17 novembre à 20h à la Halle au Grain. Il y a une seule œuvre au programme, Serge, la colossale symphonie numéro 8 d'Anton Bruckner. Mais l'événement de cette soirée, c'est surtout le retour à Toulouse de celui qui va diriger la phalange toulousaine à cette occasion, un certain Tougan Sokiev.
C'est vraiment, il n'y a pas de doute que ce concert attirera un public nombreux et heureux, de retrouver celui qui a quand même accompagné l'orchestre pendant 17 années, hein, puisqu'il n'a pas été tout de suite directeur musical, il a d'abord été premier chef invité et conseiller musical, puisqu'il n'avait que 27 ans à l'époque, et il n'a pas voulu prendre directement la responsabilité de la direction artistique de l'orchestre, mais au bout de 2 ans, évidemment, la cause était entendue, et l'orchestre, très heureux, l'a accueilli comme directeur artistique. Donc, effectivement, c'est un retour incroyable, hein, et ça ne sera pas le seul, puisque pendant la saison, il dirigera deux autres concerts. Et puis, n'oublions pas qu'on le reverra également à Toulouse une quatrième fois dans le cadre de la saison Grands Interprètes, où il dirigera un petit orchestre assez connu, qui est quand même l'Orchestre Philharmonique de Vienne. Donc vraiment, c'est le grand retour de Tugan Sokiev à Toulouse, et je crois que tout le monde en est très heureux, y compris les musiciens.
Oui, alors il reviendra le 23 mars et le 10 juin pour diriger l'Orchestre National du Capitole à Lalograin. Et je crois également qu'il va accompagner et diriger l'orchestre lors d'une petite tournée en Suisse cet été.
Oui, je crois, en effet.
Voilà, donc si brouille il y a pu y avoir à un moment donné, voilà que les choses se sont aplanies et qu'on aura évidemment le plaisir de retrouver Tugan Sokiev, non seulement cette saison, mais je pense aussi lors des saisons qui suivront.
Oui, voilà. Alors, évidemment...
Le lien n'est pas rompu.
Ah non, absolument pas. Et puis, ce retour remet à l'ordre du jour quand même la question qui se pose sur sa succession.
Oui.
Donc, on verra.
Il y a des choses qui se passent.
Les musiciens, les musiciens sont consultés. Donc, effectivement, puisqu'il faut absolument que le successeur de Tugan Sokiev ait l'approbation de tous les musiciens de l'orchestre.
Hein. On sait qu'il y a un nom qui circule beaucoup, on en a parlé ici. Reste à voir, je crois que la balle est dans le camp de la personne concernée.
Exactement. Donc, pour ces retrouvailles, eh bien, comme vous l'aviez dit, une seule mais grande partition, la symphonie numéro 8, la nuit mineure d'Anton Bruckner. C'est la plus longue des symphonies de Bruckner, qui a une histoire un peu compliquée, avec de multiples rebondissements, puisque la première version, qui date de 1887, a été rejetée par celui qui devait la diriger, le chef Hermann Levy, le chef wagnérien, hein, c'est celui qui avait créé Parsifal de Wagner. Et donc, Bruckner, qui n'était jamais très sûr de lui, hein, c'était un homme inquiet. Hein. Et donc, il a procédé à de multiples modifications. La version suivante de 1890 a subi d'inévitables, je mets des guillemets, coupures. Et puis, quelques harmonies qui étaient jugées trop hardies ont été adoucies. Et puis, il y a des tonalités qui ont changé. Et elle a eu un très grand succès lors de sa création à Vienne, en 1892.
5 ans après la première version.
Exactement, 5 ans après, et même 2 ans après la révision. Hein. Là, c'était Hans Richter qui dirigeait l'Orchestre Philharmonique. Et là, les critiques ont été éblouies, puisqu'elles ont qualifié cette symphonie de « symphonie des symphonies » ou encore « sommet de la symphonie romantique ».
Oui, oui. Donc, très grande symphonie romantique, magnifique. 4 mouvements assez classiques.
Symphonie, voilà. Et donc, dans cette symphonie, à noter que Bruckner a suivi un peu l'exemple de Beethoven dans sa 9e, en inversant le scherzo et l'adagio. Hein, d'habitude, c'est pas dans cet ordre-là. Donc, il a suivi un peu l'exemple de Beethoven, qu'il admirait, bien entendu, plus que tout au monde. Voilà, cette symphonie, qualifiée comme la plupart des symphonies de Bruckner, de cathédrale mystique, en quelque sorte, occupera toute la soirée, ce qui est déjà pas mal.
Hein. Oui, elle dure au moins 1h15, ça dépend des directions, des chefs, ce qu'ils en font, mais au moins 1h15, et parfois 1h25, voire 1h30.
Oui.
Symphonie très longue.
Et alors, je vous signale que c'est la version de 1890, qui sera exécuté, donc, et à savoir quand même que l'orchestre l'a déjà joué à plusieurs reprises, cette symphonie, notamment en avril 2007, sous la direction de Yannick Nézet-Séguin, et également en juin 2011, sous la direction de Joseph Swensen. Donc, il y a une certaine tradition brucknerienne qui s'est établie.
Oui, parce que l'orchestre a joué la 7 également. Je crois que c'était sous la direction de Tugan Sokiev.
C'est celle qui a été le plus souvent jouée, d'ailleurs.
Voilà, la 7 et la 9 aussi.
Oui, exactement.
Plutôt les dernières, donc. Et Bruckner qui lui aussi s'arrête à 9.
À 9.
La malédiction de la
9e. C'est incroyable. Hein. Beethoven, Dvorak.
Mahler.
Mahler, évidemment. Bruckner, Schubert. C'est
étrange tout de même.
Hein. C'est étrange, étrange.
Très, très troublant.
Oui.
Et ça concerne à chaque fois des germaniques, hein, vous avez remarqué.
Oui, exactement.
La 8e symphonie d'Anton Bruckner est une très grande œuvre. Il ne faut donc pas passer à côté de la chance de l'entendre à Toulouse. Pour vous en convaincre, en voici un extrait, le début du deuxième mouvement, le Scherzo, interprété par l'Orchestre Philharmonique de Munich sous la direction de Sergio Celibidache. Le début du deuxième mouvement Scherzo de la 8e symphonie d'Anton Bruckner, interprété par l'Orchestre Philharmonique de Munich, dirigé par Sergio Celibidache. C'est donc la seule œuvre au programme du concert que donne l'Orchestre National du Capitole, sous la direction de Tougan Sokiev, ce jeudi 17 novembre à 20h à la Halle au Grain. Lundi prochain, le 21 novembre, il y a malheureusement deux concerts le même soir, dont un de nouveau à la Halle au Grain. Il est proposé par les grands interprètes qui, pour leur deuxième rendez-vous de la saison, ont invité un de leurs musiciens fétiches, le russe Grigori Sokolov. On ne compte plus le nombre de fois où ils ont programmé à Toulouse, celui qu'on peut ranger sans hésiter parmi les plus grands pianistes vivants. Et Sokolov revient à la Halle au Grain avec un programme copieux comme il en a l'habitude, mais aussi très original, Serge, puisque l'on va y entendre de nombreuses pièces d'Henry Purcell transcrites pour le piano.
Oui, ça, ce sont les particularités de Grigori Sokolov. C'est tout de même un paradoxe vivant, cet homme, puisque à l'époque de l'hypermédiatisation, il est resté longtemps un secret, en quelque sorte, un pianiste secret.
C'est un peu un moine soldat du piano, hein, pour
exactement,
le dire de façon imagée, mais c'est vraiment ça. Hein.
Alors, sa carrière est médiatiquement très discrète. Hein, et il parcourt le monde avec un répertoire d'une impressionnante étendue. Alors, il a joué du William Byrd, notamment, autant que du Purcell, et du Arnold Schoenberg, aussi bien.
Et du Rameau, Haydn, et du Mozart. Enfin bon,
exactement.
Donc,
il a des déclarations tout à fait intéressantes. Notamment, c'est lui qui dit « La musique n'est pas un métier, C'est la vie, tout simplement. L'interprétation, ce n'est pas un travail de 10 minutes, de 10 jours ou d'un mois, c'est le produit de toute une vie. Et c'est exactement l'impression qu'il donne. Lorsqu'il entre sur scène, c'est un sacerdoce qui arrive et qui établit un climat particulier. Donc il a un jeu unique qui est à la fois fait de contrôle absolu, mais de forte personnalité, avec une palette de couleurs impressionnante, sans limite. C'est quelqu'un de vraiment hors du commun. Hein. C'est quelqu'un qui, en plus, qui n'enregistre peu. Et c'est sans doute parce que pour lui, la musique se vit dans la fébrilité
dans l'instant.
De l'instant. Et donc, voilà, mettre en boîte, ça ne l'intéresse pas. Ouais, c'est communiquer avec le public.
Musicien très, très admiré de ses collègues, si on peut dire. Et pas seulement des pianistes. Quand j'en parle avec des musiciens de l'Orchestre du Capitole, Sokolov, c'est vraiment une figure. À chaque fois qu'il vient, tous sont dans la salle pour l'écouter lorsqu'il ne joue pas le même soir. Et vraiment, ce programme avec Purcell, donc Purcell, neuf pièces de Purcell.
Neuf pièces diverses, hein, avec des trois suites, avec des partitions inspirées à Purcell par les répertoires traditionnels irlandais, écossais. Donc voilà, neuf pièces qui vont se succéder. Ça va faire probablement une première partie.
Oui, très dense. Rien que la première partie va déjà être très dense
et
surprenante parce que Purcell au piano, ma foi, on n'entend pas ça tous les jours.
Ben non, Purcell a écrit pour le clavecin, hein, d'accord, mais on joue bien Bach au piano.
Oui,
donc,
bien sûr, bien sûr.
Pourquoi pas, hein. Ben, on va découvrir.
Autre rareté, les variations Eroica de Beethoven.
Eh oui, alors ce sont des variations assez rares, c'est l'opus 35 hein, de Beethoven, c'est un cycle de 15 variations et une fugue en mi bémol majeur, donc qui a été composé en 1802, mais sur un thème qui est commun à deux de ses grandes œuvres, d'une part les créatures de Prométhée, et d'autre part surtout la troisième symphonie dite héroïque. Donc c'est...
Mais ce sont les variations qui précèdent
la symphonie.
Qui précèdent,
exactement.
Attention.
C'est en quelque sorte une esquisse
qu'il fait
de ces deux œuvres importantes, surtout la symphonie héroïque. Alors ces variations sont dédiées au comte Moritz von Lichnowsky, qui a été un ami, un soutien
très important
dans la vie de Beethoven, y compris pour des soutiens financiers. Donc voilà. Alors ça, c'est aussi une œuvre importante de Beethoven.
Et c'est rarement joué en concert. Hein.
Rarement joué, et c'est dommage, parce que c'est vraiment une œuvre très accomplie, très accomplie.
Et puis il va terminer, alors ça c'est plus habituel concernant
Grigori
Sokolov, les trois intermezzi numéro 1, opus 117 de Johannes Brahms.
Voilà, opus 117, alors ce sont ces pièces crépusculaires de la fin de vie de Brahms, des pièces d'une profondeur insondable on peut dire, hein. Et donc j'imagine que c'est l'interprète idéal pour ce genre de musique. Hein. Alors ce sont en fait, il le dit lui-même, Brahms, les pages d'un journal intime, d'un homme qui ne riait jamais. Voilà ce qu'il dit Brahms de lui-même. Ben voilà, ce 21 novembre, c'est donc le retour, on peut dire, d'une légende du piano.
C'est la vedette un petit peu à Toulouse, parce qu'il y a des gens qui ne rateraient sous aucun prétexte
absolument.
Récital de Sokolov. Il y en a en moyenne tous les deux ans, aux grands interprètes.
Oui.
C'est un habitué.
C'est un habitué de grands
interprètes. C'est plus qu'un habitué, parce que je ne saurais même pas dire combien de fois il est venu.
Oui.
Il y a autre chose qu'il faut dire, on ne peut pas vous dire ce que seront les bis, mais ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il y en aura beaucoup.
Ça, c'est incroyable, puisque nous l'évoquions tout à l'heure, il y a un concert à la fin duquel il avait joué 6 bis, ce qui est tout de même incroyable.
C'est une véritable troisième partie du concert.
Ah non, mais c'est un pianiste généreux. Voilà.
Mais sans faire du tout le cabot. Hein.
Ah non, non, pas du tout.
Il ne vient pas chercher les bis.
On sait
qu'ils sont là, donc si vous en voulez, vous en aurez autant que vous voudrez.
Voilà.
Pas autant, pas 10 quand même, mais 5 ou 6, ça ne lui fait jamais peur.
Je ne sais pas, il pourrait arriver à 10, oui.
On écoute tout de suite Grigori Sokolov dans une interprétation du premier des trois intermezzi, opus 117, numéro 1 de Johannes Brahms. Thank you. Quelle sonorité, quel son cristallin vraiment dans ce premier des trois intermezzi numéro 1, opus 117 de Johannes Brahms, interprété par Grigori Sokolov.
Une méditation extraordinaire.
Qui fait partie de ces pianistes qui savent donner leur juste poids à chaque note. Donc c'est une des pièces au programme du concert qu'il donne le lundi 21 novembre à 20h à la Lograin. C'est le troisième et non pas le deuxième de la saison des grands interprètes. C'est Serge Chosy qui m'a fait remarquer puisqu'il y a déjà eu ceux de l'ensemble Pygmalion et celui de Cecilia Bartoli précédemment. Dans un genre tout à fait différent, le même jour et à la même heure, mais à Saint-Pierre-des-Cuisines, a lieu le deuxième concert de la saison des Clés de Saint-Pierre. Je rappelle que cette saison est organisée par les musiciens de l'Orchestre National du Capitole, qui s'y produisent en formation de chambre, dans des programmes souvent très originaux, et celui du 21 novembre ne déroge pas à la règle, Serge Chosy, puisque nous allons y entendre un quintet à cordes, autour d'un accordéoniste. Expliquez-nous ça dans le détail.
Mais oui, et j'aime beaucoup le titre que les musiciens ont choisi, « Accordes et accordéon ». Et donc, effectivement, il y aura 5 musiciens de l'Orchestre National du Capitole, des pupitres de cordes, donc violon, alto, violoncelle, contrebasse. Et donc, ils nous emmèneront, comme ils le déclarent, dans un tour du monde en 90 minutes, donc qui associe aux cordes un accordéon. Ça n'est pas chose courante, dans un programme vraiment intéressant qui débutera par du Boccherini uniquement aux cordes cette fois puisque c'est son quintet avec contrebasse opus 39. Et ensuite, alors là, c'est là que la nouveauté va affleurer, c'est le concerto pour clavier numéro 5 en fa mineur de Jean-Sébastien Bach dans sa version avec accordéon au lieu du clavecin habituel.
Ça va être une découverte, hein.
Ah oui, une découverte.
Moi, j'ai jamais entendu, hein, je ne sais pas ce que ça peut donner.
Ah non, mais...
Rien que pour ça.
Mais l'idée est bonne.
J'avoue
hein.
que la curiosité
ah,
me
oui,
titille.
Oui, 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 oui. Ça, c'est...
Voilà, alors on peut peut-être citer tous les musiciens,
oui.
Parce qu'il y en a 6.
Il faut absolument les citer. Il y a 2 violonistes, 2 dames, Mary Randalls et Xu Yan Ying, puis l'altiste Isabelle Mention, le violoncelliste Gaël Sédoux et le contrebassiste Simon Théris. Voilà quels sont les 5 musiciens de l'orchestre que l'on retrouvera à l'auditorium
voilà,
Saint-Pierre-des-Cuisines.
Et alors, celui qui va jouer du piano à bretelles.
Le piano à bretelles sera tenu par l'accordéoniste Thomas Chédal-Bornu, donc, qui est un musicien connu hein, dans le domaine de l'accordéon et accompli.
Ans,
et donc, on est très heureux de l'accueillir.
Oui, alors, petite précision, figurez-vous que j'ai appris par Isabelle Mention, qui est un peu... conçu le programme de ce concert. Et donc, Thomas Chédal-Bornu, c'est un protégé de Richard Galliano, et il enseigne l'accordéon au Conservatoire départemental de Châteauroux, où il a pris la suite d'un certain Félicien Bru.
Ah, autre...
Voilà, l'accordéoniste que tout le monde s'arrache.
Oui,
aujourd'hui, ils ont le même âge, ils ont 36 ans tous les deux. Voilà.
Et lui aussi joue beaucoup de classiques
absolument,
à l'accordéon.
Absolument.
Hein, oui.
Et tous les deux, je l'ai dit, sont un peu des protégés, en tout cas, ils sont dans la filiation de Richard Galliano. Richard Galliano qui est au programme de ce concert.
Exactement, avec son Opale Concerto pour quintet à cordes et accordéon. C'est écrit vraiment pour l'accordéon, et donc un quintet à cordes. Donc là, on retrouvera l'ensemble des musiciens de manière authentique et absolument officielle, en quelque sorte.
Vous l'avez compris, ce programme est très riche, très varié, c'est pas fini, il y a d'autres œuvres. Mais avant de vous en parler, je propose qu'on écoute un premier extrait du programme de ce concert avec Opale, on vient d'en parler, le concerto pour accordéon et cordes composé par Richard Galliano, dont voici le troisième mouvement, Allegro Energico.
Thank you.
le troisième mouvement Allegro, très énergico, d'Opale, le concerto pour accordéon et cordes de Richard Galliano, et puis autres œuvres au programme, il y en a deux, d'Astor Piazzolla. Il y a un lien quand même dans tout ça, parce que ce concert raconte une histoire. L'histoire, en fait, c'est la danse un peu à travers les âges qui a inspiré tous les compositeurs de Bach, parce que ces suites, ce sont des suites de danse. Et puis, Piazzolla et Galliano sont deux grands admirateurs de Bach qui eux-mêmes ont composé, bah, Piazzolla c'est le New Tango, et puis Galliano qui lui-même avait été conseillé par Piazzolla qui lui a dit fais la musique que tu as envie de faire comme moi je l'ai faite, c'est Nadia Boulanger qui lui avait conseillé, mais lui aussi a créé une espèce de New Jazz, et donc Piazzolla, deux œuvres, des extraits de Five Tango Sensations.
Sensations, c'est l'extrait Loving and Fear, donc Amour et Peur, hein, donc c'est très alléchant tout ça, et puis alors une des versions, des multiples version d'Oblivion. Oblivion de Piazzolla, c'est vraiment, je crois, son œuvre la plus célèbre. Et là, dans sa version pour quintette à cordes.
Là, il n'y aura pas l'accordéon, parce qu'il existe des versions quatuor accordé accordéon. Oui. Là, ce sera la version quintette à cordes, donc avec la contrebasse.
Voilà.
Mais c'est magnifique aussi. Ah, bah, c'est oui. Tellement magnifique que je vais vous en faire écouter un extrait de cette version d'Oblivion pour quintette à cordes, l'œuvre, comme vous le disiez, la plus célèbre d'Astor Piazzolla, dans cette version, avec cinq musiciens qui jouent de l'archet. Déchirante version pour quintette à cordes du célèbre Oblivion d'Astor Piazzolla, une des œuvres au programme du concert des Clés de Saint-Pierre, lundi 21 novembre à Saint-Pierre des Cuisines. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Serge, mais je trouve que ce programme est non seulement très original, mais aussi extraordinairement bien pensé. C'est vrai, c'est un voyage à travers l'histoire.
Exactement. C'est
qui va de Bach jusqu'à Galliano.
Voilà, un tour du monde en quelque sorte. Hein. Oui. C'est vraiment un très beau projet.
Et ça montre aussi à quel point la danse reste au cœur de la composition musicale à travers les âges. Nous sommes arrivés au terme de ce numéro auquel je vous remercie encore une fois très chaleureusement Serge Chosy d'avoir participé. Merci infiniment pour tout ce que vous apportez à cette émission depuis 5 ans maintenant. Oui. Il y a donc beaucoup de dates à noter dans l'agenda de la semaine à venir. Tout d'abord, l'événement Bypass à Toulouse, le Forum international de la création musicale du 15 novembre au 1er décembre, essentiellement au Ring, mais aussi à Saint-Pierre-des-Cuisines et à la Cinémathèque pour le ciné-concert. Je vous invite à vous renseigner sur la programmation, les dates et lieux de concert à l'adresse www.studio-eol.com. www.mélomanie.com pour le concert de l'Orchestre National du Capitole, jeudi 17 novembre à 20h à la Halle au Grain, lors duquel Tougan Sokiev va diriger la symphonie numéro 8 d'Anton Bruckner. Les réservations et l'achat des places en ligne sont à faire sur le site www.onct.toulouse.fr. Ce même jeudi 17 novembre à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines, là encore il y a un concert le même soir. Premier concert de la saison des Arts Renaissants avec le duo formé par le pianiste Adam Laloum et la violoniste Sayaka Shoji pour un programme Schumann-Brahms. Billetterie en ligne sur le site www.art-renaissant.fr. Je rappelle également le week-end prochain les deux après-midi de concert proposés les 19 et 20 novembre au Palais Niel à Toulouse par le festival Musique au Palais sur le thème Amitié et Correspondance, un festival qui a aussi une dimension caritative. Tout le détail de la programmation est consultable sur le site www.musiqueaupalais.org. Vous trouverez aussi un lien vers la billetterie en ligne. Et enfin, je reviens sur les deux concerts du lundi 21 novembre, celui du pianiste Grigory Sokolov à la Halle au Grain pour le compte de la saison des grands interprètes. Vous pouvez réserver vos places et les acheter en ligne sur le site www.grandsinterprètes.com. Et pour celui des Clés de Saint-Pierre, avec son programme à cordes et accordéon, les réservations et la billetterie sont accessibles à l'adresse www.lesclésdesaintpierre.org. Merci à Christophe Aubry pour la réalisation de ce numéro, dont le podcast est disponible et téléchargeable dès aujourd'hui sur le site de Radio Présence comme d'habitude. Mélomanie est diffusée les mardis à 19h et les mercredis à midi. Merci d'être toujours fidèles à notre écoute et très bonne semaine musicale à tous.